Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Derrière le rideau. Bonjour William, bonjour Fabrice.
Salut Rebecca.
Bonjour Rebecca.
Bonjour
Fabrice.
Jean-Baptiste. Bonjour. Et bonjour Bernard Gouet.
Bonjour à tous.
Voilà,
bonjour.
Donc dernier volet donc sur la vie de d'Émile Gouet.
Nous en étions à la vie au camp, et donc il a composé ce fameux prélude de chorale et fugue, dont vous avez pu sur les ondes entendre l'intégralité avec cette fugue très forte et très lyrique, monumentale, signée à la manière dont Bach le fait, G, E, Sol, Mi, motif qui revient beaucoup dans cette fugue. Ensuite vient un projet de concerto pour violon qui va se transformer en symphonie concertante et qui sera créé à l'Auflag en novembre, novembre 43, par 50 musiciens. Il ne pourra jamais l'écouter vraiment dans la forme dans laquelle il l'a composé, puisque les bassons et les cors, malheureusement, sont remplacés par des saxophones. Par la suite, il va s'intéresser à écrire son esthétique musicale sous forme de traité. Il clarifie ses méthodes de composition, ses procédés. Et puis des pièces pour orchestre, le crépuscule sur le mont Coudreau, impression, j'éprouve monotonie, douceur, austérité, grandeur, sont les qualificatifs qui conviennent à cette pièce, n'est-ce pas?
C'est exact, c'est lui-même, il y a quelques phrases de présentation, etc. C'est une esquisse en fait.
Il va recevoir un prix pour cette pièce?
C'est exact, un prix entre les compositeurs prisonniers qui...
Attribué par l'Académie française.
Il y a eu deux prix. Il y a eu un prix attribué par l'Académie française qui a récompensé les actions des actions menées dans les camps vis-à-vis de leurs co-détenus. Et ça, c'est un prix musical, ça.
D'accord.
Uniquement musical, qui est fait d'ailleurs sous le patronage de Cocteau, etc. Enfin, toutes les autorités musicales. Il y avait trois ou quatre sortes de prix. Il y avait un prix Calvé aussi. Là, il y avait un prix de musique de chambre, de musique d'orchestrale réduite. Enfin, il fallait que ça soit même des petits orchestres. Il y avait un autre, il y avait des concours organisés entre les prisonniers
Voilà, et dans le cadre de ses concours, il fait une esquisse symphonique.
L'esquisse pour un paysage du Mont Coudreau.
Voilà. Et donc Paul Le Flem va écrire en 1949. Paul Le Flem va écrire un commentaire à propos de cette esquisse. Il dit à propos de son esquisse symphonique: Monsieur Gouet écarte tous les effets de coloris ou de pittoresque. Pour lui, la musique est une évasion du réel, la recherche d'un autre monde que ce savant entend construire à son gré. Deux thèmes, soutien de ce monde imaginaire dont il a la clé, montrent l'élévation, la noblesse profonde d'une pensée, parfois desservie par le métier de l'orchestration. C'est assez... voilà. Mais c'est quand même un commentaire extraordinairement élogieux de Paul Le Flem.
Surtout que là, il avait entendu la version pour orchestre par trois.
D'accord.
Et 1944, au niveau de historique, ça correspond aussi au débarquement des Alliés.
Le 6 juin 1944.
Donc, là... événement qui, d'ailleurs, est parvenu aux oreilles des prisonniers, parce qu'il y avait un poste clandestin dans l'Oflag, c'est ça?
C'est exact. D'ailleurs, d'une part, les Allemands affichaient quand même des communiqués, ils ne pouvaient pas cacher certaines choses. Et deuxièmement, il y avait effectivement un poste appelé, je crois, Arthur, qui était planqué, excusez-moi du terme, et qui a échappé...
À la surveillance.
À la surveillance, au moins celui-là, parce que le premier s'était fait prendre, et les gens qu'il avait avaient été envoyés dans un flag disciplinaire. Mais ils ont pu réapprovisionner, partir détacher...
C'était dangereux.
Bien sûr, mais il y avait des nouvelles.
Donc ils sont informés de ce débarquement, et donc un espoir naît, et en même temps, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils seront libérés, ils ne savent pas s'ils le seront vraiment, mais il y a une fébrilité qui s'installe dans le camp.
Donc tout leur moral reste concentré sur les effets du débarquement.
Oui. C'est ça. Et
sur l'espérance qu'ils vont être libérés prochainement.
Oui.
Et du coup, paradoxalement, l'écriture d'Émile Gouet va se raréfier.
Oui, il est mobilisé un petit peu.
Oui, alors il y a deux raisons pour ça. D'abord, parce que les Allemands deviennent de plus en plus sévères, il y a de moins en moins à manger, les colis américains n'arrivent pas, ils passent leur vie en anglais. Il y a eu quand même la contre-offensive des Ardennes, mm-hmm. Ils ont tué le moral pendant quand même pas mal de temps.
Oui.
Parce que von Fuchstedt a fait une avancée, a repoussé les Américains avant d'être lui-même repoussé. En fait, ils ont dit, vous savez, on repère la guerre, si je puis dire. Le moral était à zéro, il a maigri.
Oui, parce qu'ils ne reçoivent plus les colis de la famille. Il n'y a plus de communication. Le système allemand, de communication allemand est très très perturbé. Et donc les prisonniers sont les premiers qui en souffrent.
Voilà, exactement.
Hein, donc votre papa va perdre énormément de poids. Il sera à 61 kilos à la fin de la guerre. Donc c'est quand même un beau gaillard. Il mesurait combien, votre papa?
1m84.
1m84, 60 kilos, on imagine.
Très amaigri.
Très amaigri, affaibli. Affaibli. Il y a toujours quelques spectacles, mais ces spectacles quand même se raréfient un petit peu dans la deuxième partie de l'histoire du camp, la fin de l'histoire du camp. Et puis vient le fameux prélude, aria et finale, en même temps que cette composition de prélude, aria et finale qui fait toujours aussi un peu comme le prélude choral et fugue qui fait appel à la mémoire de Jean-Sébastien Bach. Il monte au camp, alors des extraits de la Passion, selon Saint Jean, hein, en 1944. Et même, il a un projet, je ne sais pas s'il le réalise ou partiellement ou pas, de monter Boris Godounov.
Non, parce que, en fait, il y a eu le bombardement du camp, parce qu'il a tout de suite arrêté à un moment.
D'accord. Et donc, dans le prélude aria et finale, on a un prélude relativement anguleux, sauvage, anxieux, crispé, une aria atonale qui va s'illuminer progressivement avec l'apparition d'une harmonie plus définie, d'une tonalité plus définie, et un final qui est construit avec un contre-sujet qui utilise des motifs de l'aria. On va peut-être écouter une de ces pièces.
Alors, ce que je vous propose, avec votre accord, c'est qu'on écoute l'aria. Donc vous venez d'entendre l'aria de prélude, aria et finale, opus 48, composé en 1944 par Émile Gouet, interprété au piano par...
Diane Andersen.
Voilà. Donc nous étions partis sur la fin du camp. Émile Gouet aura le temps de composer une dernière pièce peut-être au camp.
Oui.
En décembre 1944.
Il travaille sur le troisième quatuor à cordes.
C'est ça.
Et donc toujours d'influence monothématique, comme il l'avait fait depuis 1943.
Voilà, c'est ça. Donc une pièce à la forme très travaillée, épique, également dans l'héritage de Bach et de Beethoven. Il pense beaucoup au quatuor de Beethoven, Bernard ?
Oui, là, il détache un peu de Beethoven, dit-il, après, à cette époque-là. Enfin...
Mais Beethoven composait la Grande Fugue aussi,
oui, c'est ça,
il y a cette référence à la Grande Fugue. Et donc il ne parviendra pas, la libération du camp intervient heureusement, on peut pas dire pas trop tôt, le 5 avril 45, libération de l'Oflag, et donc il ne peut pas finir son quatuor, il le finira à Paris à son retour. Il rentre sur Paris, mais alors dans des conditions à pied, avec sac au dos, donc des conditions difficiles, il n'est pas capable d'assurer ce retour à pied.
Oui, ils ont monté vers Lübeck, ils sont descendus, et puis ils sont restés au bord de la route.
Il est resté au bord de la route et il a fallu qu'il se fasse soigner un certain temps.
Il était récupéré dans un camp anglais et après, bon, il a pu manger et fumer.
Et le voilà qui retourne à Paris. Est-ce que vous pouvez raconter ces retrouvailles, vous?
Je n'étais pas à la gare parce qu'il est rentré par le train. Ma mère y était et comme il n'y avait pas assez de place dans la voiture que conduisait son frère, elle n'avait pas voulu prendre un enfant sur les trois. Donc nous attendions dans l'appartement et je me souviens avoir vu apparaître un grand gaillard, bien sûr, hein, avec une capote un peu froissée, etc., et la seule chose dont je me souviens aussi, c'est les deux énormes musettes qu'il avait de chaque côté. Et ce grand gaillard que je ne connaissais pas me prenait dans ses bras et nous serrait tous les trois enfants, etc.
Le retour à la maison.
Le retour à la maison, 7 avenue des Gobelins, dans l'appartement où ma mère avait vécu 50 ans. Et après, nous avons passé des vacances à la Boissière, dans l'Oise. Et il a repris ses cours dès le début de l'année.
Il est rappelé au lycée Louis-le-Grand.
Oui, au lieu de se reposer, il a recommencé, y compris en étant nommé au jury de l'irrigation. Et en donnant un récital au mois de novembre de ses œuvres. Enfin.
Là, j'ai dans le livre de Damien Top, j'ai une citation intéressante du proviseur du lycée Louis-le-Grand, le proviseur Gibelin, qui était inquiet du retour de Bernard Gouin, se disant est-ce qu'il va être capable de prendre le poste. Il le dit, je l'avoue aujourd'hui. Je ne le vis pas venir sans une certaine inquiétude. Je savais la part que la musique prenait dans sa vie et je me demandais s'il pourrait satisfaire à la fois aux exigences de sa vocation musicale et à celles de son métier de professeur. Ces dernières bien lourdes dans une classe de 75 élèves qu'il s'agissait de préparer et d'entraîner pour les grands concours. Je craignais aussi que 5 années de captivité l'eussent mis hors d'état de fournir l'effort nécessaire. Sur le premier point, je fus bien vite rassuré. Par quel miracle d'activité et de méthode, M. Gouet arrivait-il à faire face à une double tâche aussi écrasante? Je me demande encore, et je ne puis l'expliquer, que par ses dons exceptionnels, sa puissance de travail, la promptitude et la vigueur de son esprit, son sens de l'ordre et de l'organisation, et aussi par son influence profonde sur ses élèves. Un commentaire quand même extraordinairement élogieux.
Il est rentré en Sana à la fin de l'année scolaire, c'est-à-dire en juillet 46, alors qu'il était arrivé en mai, qu'il a repris tout de suite. Il a fait une année scolaire, il est rentré en Sana en mois de juillet, c'est ça, il est mort en octobre.
Donc quand même, il termine son quatuor à cordes, le troisième.
Oui, oui.
Il écrit aussi une pièce qui s'appelle « Thème et variations ». Est-ce que vous voulez nous faire un commentaire sur cette pièce, Bernard?
Il avait écrit en captivité qu'il allait écrire une pièce qui était « Thème et variations » parce que ça ne posait aucun problème de forme, mais que par contre, ça lui permettait de montrer ce qu'il entendait par il appelait ça les variations décoratives. Là, il a fait, il y a 8 ou 10, je crois, variations. Entrecoupées, une fois ou deux, il y a une espèce de supplément pour casser un peu le rythme.
Je voulais aussi citer le texte écrit par Léon Flavien, un enseignant du lycée Louis le Grand, dans la même classe de préparation aux grandes écoles, qui fait un portrait touchant d'Émile Gouët. Dès que nous nous rencontrâmes, je trouvais en lui ces traits de caractère que l'on m'avait souvent dépeints. Je vis un homme grave, au regard profond, au sourire enveloppant et mélancolique. Je découvris promptement en lui des ressources d'intelligence et de cœur d'une nature exceptionnelle. Le sérieux de la pensée, le scrupuleux examen des détails, la volonté de se donner tout entier à sa tâche et de conduire ses élèves au succès. Ces derniers ne s'y trompèrent pas. Classe nombreuse, classe ardente, classe affectueuse, c'était pour Émile Gouët le champ d'action idéal qu'il marqua profondément de son empreinte et où se révélèrent mûris et multipliés par l'épreuve ses remarquables dons de professeur et d'éducateur.
Est-ce que vous avez peut-être d'autres souvenirs de votre papa, Bernard? Peut-être les derniers moments, peut-être c'est peut-être le moins facile à évoquer.
Quand il était, la dernière fois que nous l'avons vu avec mon frère et ma sœur, c'était quelques jours avant son décès, puisqu'on est allé le voir le dimanche. On lui a fait au revoir de la fenêtre parce que l'autocar nous attendait. Il nous a fait au revoir donc de la fenêtre, etc. Et on a pris notre autocar. Après, nous ne l'avons pas revu puisqu'il est mort un lundi. Non, il est mort un jeudi, les obsèques ont lieu le lundi. C'est les obsèques à Neufmoutier-en-Brie où je voyais que ma mère hochait la tête à notre père parce qu'il y avait au moment où on disait donner aujourd'hui notre pain parce qu'elle avait les 3 enfants à faire vivre. Ou des gens comme M. Robin qui était le violoniste et soliste créateur de la symphonie. Pleurer en disant mon maître, mon bon maître, etc. Et puis la sortie, on est parti en train, on est allé enterrer mon père à Guéret, et la seule chose que m'a marqué de ces obsèques, c'est d'aller, quand ils ont ouvert un wagon de marchandises en gare de Guéret, on ouvre, il y a un cercueil dedans avec des fleurs dessus. J'ai trouvé ça un peu décevant. La dernière œuvre digne de ce nom qu'il a écrite s'appelle l'esquisse sur une inscription sur une stèle. Ma mère a essayé de lui faire changer le nom. Elle n'est jamais arrivée. Elle lui disait oh, ben, c'est la stèle sur laquelle on pose une statue. Mais ma mère, elle avait peut-être exprimé un pressentiment. Voilà.
Oui, bien sûr.
Donc nous allons terminer cette dernière émission consacrée à Émile Gouët. Nous avons vécu des moments très attachants, des moments très intenses. Il existe donc des ouvrages qui relatent à la fois la vie d'Émile Gouët et son œuvre.
Et sur Internet voilà. Également.
Et sur Internet également. Les partitions sont disponibles par-ci, par-là. Mm-hmm. Il existe des enregistrements de plus en plus nombreux. Et merci Bernard d'avoir témoigné au cours de nos émissions consacrées à votre père. Ce témoignage pour nous est très important. On vous remercie mille fois, cent mille fois.
Et tout, donc, ne me dites pas merci, c'est à moi de vous dire merci de m'avoir reçu.
Voilà, très bien, merci beaucoup.
Et je propose que pour finir, on écoute le deuxième mouvement du troisième quatuor, qui est une profonde méditation, une grande beauté.
Au revoir à tous, au revoir Rebecca, au revoir Fabrice, au revoir Jean-Baptiste et au revoir Bernard. Bonne journée à tous nos auditeurs et à très bientôt. Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Et merci.